décryptage. Marion Kazanov.
Les meilleurs joueurs d'échecs au monde vont s'affronter ces jours-ci à Toronto, au Canada, avec aujourd'hui le début du tournoi des candidates et demain celui des candidats. Les gagnants doivent ensuite défier le tenant du titre. Si les confinements liés au Covid et la série au succès mondial Le Jeu de la Dame sur Netflix ont contribué à populariser un peu plus les échecs, l'effet n'est aujourd'hui pas retombé. La discipline se démocratise, de nouveaux pays dominent les classements mondiaux à travers leurs champions, reflétant ainsi la dynamique de la géopolitique. Alors, pourquoi certains pays veulent-ils dominer l'échiquier ? Quel pays est le roi des 64 cases aujourd'hui ? Ce soir, dans Décryptage, on parle soft power et géopolitique des échecs. Et avec moi en studio, Yves Marek, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ambassadeur, ancien président de la Fédération française des échecs et auteur du livre Art, échecs et maths aux éditions de l'Imprimerie nationale. D'abord, vous-même, est-ce que vous êtes un joueur assidu ? Est-ce que vous êtes classé ?
Oui, je suis classé, je suis un joueur assidu. Je joue même pour mon club que je préside, le club d'Anières le Grand Échiquier, qui est champion de France et triple vainqueur de la Coupe de France. Et donc, effectivement, je suis mordu et je suis aussi contraint parfois de jouer aux échecs de manière un peu compulsive sur mon téléphone au moment perdu.
Oula, alors, pour tout vous dire, moi, j'avais amené un jeu d'échecs en studio. On ne va peut-être pas forcément l'entendre en radio. Là, par exemple, je vais bouger mon cavalier. Voilà, je ne pense pas qu'on entende beaucoup, mais voilà, c'est pour le plaisir des yeux. Je ne vais peut-être pas vous proposer de faire une partie, vu mon niveau. Alors, j'évoquais ce tournoi des candidats, Yves Marek. Peut-être qu'on peut expliquer en quelques mots comment fonctionne la compétition internationale. Est-ce qu'il y a tous les ans une sorte de Coupe du Monde des échecs ?
Non, c'est en fait tous les deux ans, et ça a été un processus un peu compliqué, parce qu'au début, quand on a commencé à avoir des champions du monde au 19e siècle, c'était comme dans des clubs anglais, il y avait un champion du monde, et puis il y avait quelqu'un qui faisait une proposition d'argent et qui le défiait, l'autre éventuellement voulait garder son titre plus longtemps, était de mauvaise foi et mettait du temps à accepter, et donc tout ça n'était pas très bien réglementé. Et puis on est rentré dans un système de titres classiques avec de grands champions qui étaient tous russes depuis la Seconde Guerre mondiale, Botvinnik, Karpov, Tal et Petrosian. Et puis après la victoire de Kasparov, surtout pour des raisons de caractère fondamentalement, il y a eu une sorte d'explosion, et puis le titre a été finalement réunifié. Il y a eu un titre officiel, un titre officiel, et maintenant le titre a été réunifié, et donc nous avons un champion du monde. Et alors ce champion du monde, pour désigner celui qui va l'affronter, on a mis en place un système où on désigne 8 candidats, celui qui a remporté tel tournoi, celui qui a remporté tel autre tournoi, tel autre qui a le meilleur classement à ce moment-là, et on en désigne ainsi 8, et ce sont ces 8-là donc, qui vont s'affronter à Toronto à partir de demain, pas l'idem pour les femmes, et les deux titulaires actuels du titre sont deux Chinois, Zhou Wenjun, championne du monde, et Ding Liren, le champion du monde, et donc il y aura donc un adversaire à l'issue de ce tournoi de Toronto.
Et alors dans ce tournoi des candidats et des candidates, j'ai découvert qu'en fait aux échecs, il y a deux catégories, la catégorie mixte et une catégorie féminine uniquement réservée aux femmes. Alors contrairement à l'effort physique, les hommes et les femmes sont égaux en termes de capacité intellectuelle. Alors pourquoi pas une seule catégorie, une catégorie mixte ?
Je crois qu'il n'y a pas de raison, évidemment, par rapport à d'autres disciplines, pour qu'il y ait de différence entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, il arrive très, très fréquemment que des femmes battent parmi les 10 meilleurs joueurs mondiaux. Il y a une femme, Judith Polgar, qui a été parmi les 10 meilleurs joueurs mondiaux et qui a battu le champion du monde Kasparov. Donc ça arrive souvent. Pour des tas de raisons assez complexes, peut-être sociologiques, d'entraînement, d'investissement, les femmes sont en moyenne plus faibles que les hommes. Donc l'existence de compétitions féminines, ce qui n'empêche pas les femmes de participer aux compétitions masculines avec succès, leur permet aussi d'avoir des prix, d'avoir une carrière qu'elles auraient beaucoup plus difficilement si elles participaient qu'aux compétitions masculines où elles risqueraient de ne pas avoir les premiers prix. Et les échecs féminins sont très dynamiques, pas seulement à cause du jeu de la dame, mais aussi à cause aussi de l'engagement de certains pays. Parce que curieusement, les échecs féminins sont beaucoup plus concentrés sur certains pays particuliers. Par exemple, très longtemps, l'échec féminin était entièrement dominé pendant 30 ans par la Géorgie.
D'accord. Et j'aimerais à présent qu'on écoute cet extrait d'interview de Vishy Anand, ancien champion du monde indien.
Beaucoup de pays ont un grand respect pour ce jeu, même s'il n'est pas très populaire. Et donc, quand un joueur d'échecs émerge quelque part, le pays devient immédiatement très fier. Regardez, on a le meilleur joueur d'échecs au monde. C'est un signe d'intelligence. Les échecs pour des pays comme l'Union soviétique à l'époque ou la Chine aujourd'hui, c'est un moyen de dire « Regardez ce que notre système a créé. Il donne le temps et la liberté aux gens de devenir des champions. Les échecs ont été et sont un axe de leur politique. »
Et voilà, c'était dans un reportage d'Arte sur la passion des échecs en Inde. On va revenir peut-être plus tard sur le cas de l'Inde. Ce que nous dit ce grand maître, c'est qu'en somme, certains pays considèrent que les échecs sont un outil de soft power. Ils se battent pour exceller dans la discipline. Pourquoi ?
C'est un jeu qui a un immense prestige. C'est le jeu des rois, probablement le jeu d'esprit le plus ancien. C'est aussi un art. Et donc, y a toujours un certain prestige qui est associé aux échecs. Et effectivement, pendant la période soviétique, comme Lénine joue aux échecs, les Russes se sont mis aux échecs. Il y a eu des champions très forts, toute une école soviétique avec des livres très très puissants, des travaux théoriques de très grande qualité. Et donc, c'est devenu d'évidence. Un motif de fierté pour l'Union soviétique. C'était une manière de défier l'Occident. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 1972, la défaite de Spassky contre Fischer a été un choc terrible pour le monde soviétique, parce que c'était...
Fischer qui était un Américain.
Un Américain
donc affrontement de deux blocs.
L'affrontement de deux blocs qui a eu lieu à Reykjavik en 1972, et ça a été un moment qui a été suivi d'ailleurs par les télévisions du monde entier comme un événement majeur.
On parle même
d'apogée
de la guerre.
Je crois ensuite après que l'affrontement Karpov-Korchnoï, entre Korchnoï qui était dissident et Karpov qui était soviétique, a aussi déchaîné les foules pour des raisons politiques. Et ensuite, effectivement, la personnalité de Kasparov, qui est un opposant très déterminé à Vladimir Poutine, a aussi cristallisé un enjeu politique autour des échecs.
Et alors, est-ce que la Russie domine toujours la Russie, donc post-soviétique ? Est-ce que les joueurs russes sont toujours aussi bons ? Parce qu'on a ce cliché de des joueurs russes des joueurs russes qui seraient les meilleurs au monde. Est-ce que c'est toujours vrai ?
Pas exactement, mais il y a encore une école russe extrêmement puissante avec des joueurs très très forts. Alors un certain nombre, surtout depuis la guerre en Ukraine, parce que la plupart se sont clairement désolidarisés de la guerre en Ukraine, certains ont changé de nationalité et ont préféré émigrer ailleurs, peut-être définitivement, peut-être provisoirement, et jouer sous d'autres drapeaux. Une petite minorité, notamment l'ancien candidat au titre du monde Karyakin, soutiennent de manière très très violente et scandaleuse la guerre en Ukraine, mais la plupart continuent à jouer sans drapeau et ils sont de très haut niveau, mais ils n'ont plus le monopole. Et d'ailleurs, dans le tournoi des candidats qui s'ouvre demain à Toronto, il n'y a qu'un seul Russe.
Est-ce que, donc je parlais du cas de l'Inde aussi, on voit de nouveaux pays, je ne sais pas si on peut dire nouveaux, qui émergent un petit peu dans cette discipline. Donc l'Inde, on entendait Anand qui était premier grand maître indien en 88, aujourd'hui il y en a 75. Est-ce que c'est la nouvelle usine à champions ?
Oui, c'est impressionnant. En Inde, d'abord, c'est le pays où le jeu d'échecs a été inventé, mais effectivement, il n'était pas sur la scène échiquienne. Mais après le titre d'Anand et puis les succès d'Anand, il y a une ferveur pour le jeu d'échecs en Inde qui est impressionnante. Avec l'arrivée de gamins de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, d'une force incroyable. Et actuellement, d'ailleurs, dans les 100 premiers joueurs mondiaux, il y a une série de jeunes garçons qui ont entre 15 et 18 ans, qui sont parmi les premiers au monde. Et d'ailleurs, dans le tournoi de Toronto, il y aura deux Indiens. Et qui sont d'un niveau extraordinaire, et y compris d'ailleurs, il y aura un frère et une sœur, Pragananda et sa sœur, et qui sont extrêmement, extrêmement forts.
Et comment on explique ça ? L'Inde a clairement une politique pour encourager les échecs ?
Je crois qu'il y a une politique et puis aussi il y a une passion populaire très très profonde. C'est tout à fait l'inverse du cas de la Chine d'ailleurs, où en Chine nous avons une élite de joueurs d'échecs, disons qu'il y a une cinquantaine, je dirais, de très très forts joueurs. Mais derrière, il n'y a pas de base. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une élite, mais il n'y a pas de club, il n'y a pas de tournoi. Et si vous regardez la liste des classements Elo des meilleurs joueurs sur la liste de la Chine, alors que c'est un pays d'une dimension extraordinaire, le centième chinois doit être plus faible que le 20e français et peut-être du niveau d'un joueur de club français. Donc il n'y a qu'une élite, mais il n'y a pas de base, parce que les échecs, sans doute, n'étaient pas dans la culture chinoise et non pas... Alors, depuis que Ding Liren est champion du monde, on n'a pas senti non plus une explosion des échecs en Chine. Peut-être aussi à cause de la personnalité de Ding Liren, qui est très très réservée, très timide, qui a eu l'air même de laisser entendre qu'il n'allait pas défendre son titre, que la charge était trop lourde pour lui. Et donc le phénomène de starisation n'a pas eu lieu.
Donc c'est que les Chinois ne s'y intéressent pas, ou c'est que la politique chinoise ne s'y intéresse pas forcément, elle ne veut pas forcément entraîner des jeunes à s'y mettre ?
Non, je pense que la Chine, en tant qu'État, ne verrait que des avantages à être une puissance égyptienne.
Ça
n'a pas l'air de
ça
prendre.
Prend pas assez. Alors, quel est aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'un pays est le meilleur en termes d'échecs ? Peut-être pas forcément se fier au classement, mais en termes d'émulation, de motivation, est-ce qu'on a une idée de quel pays domine ?
Alors, la Russie est encore très forte, mais aussi, il faut dire qu'elle a été éclatée, puisque beaucoup de joueurs russes d'OTAN étaient des joueurs de l'ensemble de l'URSS. Et donc, naturellement, ces joueurs, aujourd'hui, ils sont en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, en Ouzbékistan et en Ukraine, naturellement, puisque l'Ukraine n'est pas... Et voilà. Et donc, on a ce phénomène d'éclatement. Donc, tout le bloc de l'Est reste encore très puissant. Et là, d'ailleurs, actuellement, nous avons aussi une émergence de très jeunes joueurs de tous ces pays du Grand Arc d'Asie centrale, c'est-à-dire de l'Iran, mais jusqu'à l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, où il y a une jeune femme extrêmement forte, Baysayeva, et puis l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, qui ont des joueurs extrêmement forts. Et puis les États-Unis, avec Nakamura, Caruana, même le grand champion arménien Aronian, qui était un dieu vivant dans son pays, a pris la nationalité américaine. Et donc, y a beaucoup de joueurs dans mon club. J'ai le jeune russe Oparin qui vient de remporter en club la cour interuniversitaire et qui est un russe qui est devenu américain.
Je voudrais à présent qu'on écoute aussi ces passionnés d'échecs au Sénégal.
J'étais joueur de football, quoi, mais j'ai abandonné pour les échecs. Auparavant, il n'y avait que les vieux qui jouaient aux échecs. Mais actuellement, au Sénégal, on a créé pas mal de clubs. Même à Saint-Louis, là où j'habite, franchement, ça commence à monter. Ouais.
Donc, je m'entraîne en ligne 6 heures par semaine, mais aussi avec le club. Donc, je peux aller deux séances par semaine aussi. Mon ambition, bien sûr, c'est d'être grand maître, le premier grand maître sénégalais.
Alors voilà, c'est un extrait de reportage tourné par RFI qui démontre que de plus en plus de clubs se créent dans le pays. On a même ce joueur qui dit qu'il s'est détourné du foot, pourtant très populaire dans le pays, pour se tourner vers les échecs. Yves Marek, il n'y a aucun champion africain qui figure dans le top 100 mixte. Est-ce que ça pourrait arriver dans les prochaines années ? Est-ce qu'il y a une demande sur le continent ?
Oui, effectivement, l'Afrique est une terre de conquête. D'ailleurs, la Fédération internationale des échecs multiplie les voyages dans les pays pour essayer de soutenir les fédérations. Ce serait facile pourtant, parce que les échecs, ça ne coûte pas cher. C'est facile à... Mais il y a peut-être parfois des problèmes d'organisation, parce que dans beaucoup de pays, les échecs, ça a été même le cas en France dans les années 70, les échecs ne décollaient pas parce que à un moment donné, tout de même, il faut une politique sportive parce que c'est un sport, c'est-à-dire qu'il faut des entraîneurs, il faut une rigueur, il faut des tournois, il faut des compétitions pour créer une émulation et ça nécessite tout de même une organisation. Par exemple, les pays du monde arabe et du Maghreb ont eu des périodes de haut et de bas. La Tunisie, à un moment donné, a eu deux grands maîtres internationaux. Là, pour l'instant, elle a beaucoup reculé à cause de problèmes de désorganisation interne, de manque d'entraîneurs, même de délicatesse avec la Fédération internationale. Au Maroc, c'est pareil, où il y a eu des conflits. Et donc, ces effets de désorganisation administrative peuvent finir par avoir un impact parce que les joueurs ne se sentent pas soutenus, entraînés, portés aux Olympiades avec des entraîneurs. Et donc, effectivement, il y a aussi des questions de gouvernance, parfois.
Alors, je parlais de l'engouement des échecs. Les échecs se sont peut-être un peu plus popularisés avec les confinements successifs. On a un peu plus joué à la maison. Il y a eu cette série Netflix, Le jeu de la dame, mais ce n'est pas retombé pour autant. En février 2023, pour la première fois, les utilisateurs de la plateforme chess.com ont joué plus d'un milliard de parties, donc ça continue à monter en puissance. Comment expliquer que cet engouement se poursuive aujourd'hui ?
Oui, effectivement, les gens jouent beaucoup sur les plateformes et contrairement à ce que certains pensaient, cela n'a pas détourné les joueurs d'échecs du jeu en réel, si j'ose dire, en présentiel, bien au contraire. C'est-à-dire que quand les gens jouent beaucoup en ligne, ils ont envie de participer ensuite à des tournois, d'entrer dans des clubs, de se perfectionner, d'avoir des entraîneurs et de participer à la vie fédérale. D'ailleurs, la Fédération française des échecs vient d'atteindre un record de 68 000 licenciés, alors que je crois que le meilleur chiffre était à 57 000 il y a quelques années. Donc c'est un bond considérable. Et plus les gens jouent en ligne, plus en fait ils ont envie de se rencontrer, ce qui est une bonne réponse à tous les technophobes qui pensent que la technologie détruit les relations humaines.
Alors justement, est-ce que la puissance qui sera la meilleure ou qui est déjà la meilleure aux échecs, c'est pas aujourd'hui l'intelligence artificielle ?
Oui, effectivement, l'intelligence artificielle a fait un bond colossal parce que les ordinateurs d'échecs anciens étaient très très forts, pouvaient naturellement battre des grands maîtres, mais ils fonctionnaient sur des modes d'apprentissage où on leur rentrait des tonnes de parties. Et là, maintenant, avec les derniers qui apprennent tout seuls, même à jouer aux échecs, et des mécanismes d'intelligence artificielle, ils atteignent des niveaux ahurissants. Et il est évident qu'aujourd'hui, les plus grands champions pourraient très difficilement battre des ordinateurs programmés sur l'intelligence artificielle. Il y a eu la performance de Kramnik il y a quelques années, on parle toujours de Kasparov qui a perdu.
Oui, en 97.
Mais Kramnik a battu un ordinateur qui calculait 4 millions de coups secondes. Et on imagine ce que ça représente mentalement, parce que ça signifie non pas ne pas faire une seule erreur, parce qu'évidemment l'ordinateur la sanctionnerait tout de suite, mais être capable de réfléchir pour arriver à des positions en sachant que l'ordinateur, malgré ses 4 millions de coups secondes, ne peut pas comprendre qu'il va dans une mauvaise direction. Mais donc l'esprit humain peut rarement être capable de ça. Mais en revanche, l'intelligence artificielle, ça a ceci de formidable, c'est que ça a ouvert des perspectives énormes aux joueurs d'échecs de haut niveau eux-mêmes pour découvrir des choses qu'ils n'avaient pas imaginées dans certaines situations. Donc ça enrichit le jeu réel parce que ça ouvre des portes que l'esprit humain s'était bloqué lui-même. Et l'intelligence artificielle ouvre des portes, donne des idées pour les très grands maîtres naturellement qui l'utilisent, qui font tourner les ordinateurs et finalement cela n'enlève rien à la beauté du jeu, à la passion qu'on a à suivre une partie. Alors évidemment, quand on regarde les parties en ligne, des fois, on a les commentaires de l'ordinateur à côté. Et donc, celui qui ne sait pas jouer peut dire « Ah, vous voyez, le grand maître ne joue pas bien, il a fait une erreur. » Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a erreur et erreur. Et la puissance des ordinateurs, finalement, n'enlève rien au plaisir du jeu, ni à la beauté de la réflexion.
Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Yves Marek, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Ambassadeur, ancien président de la Fédération française des échecs. On peut aussi lire votre livre « Art, échecs et maths aux éditions » de l'Imprimerie nationale. Merci également à Fabrice Violet qui était à la réalisation ce soir et à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Jugurtha Hammer et un roi des échecs, Maxime De Wilder. Dans quelques secondes sur Radio France Internationale, place à l'actualité africaine. Très bonne soirée à tous.